Musique traditionnelle, une émission qui donne la parole aux acteurs du monde de la musique traditionnelle. Une émission produite et animée par Mathilde Lacaze.
Chers auditeurs et auditrices de Radio Présence, bonjour. Aujourd'hui, je suis à Paris, chez Raphaël Maillet. Bonjour Raphaël.
Bonjour Mathilde. Nous sommes à Montmartre, exactement.
C'est vrai, dans les rues de Montmartre, au pied du Sacré-Cœur. Mmh. Il y a ici beaucoup d'instruments à cordes, de chapeaux. Je suis ravie donc que vous ayez bien voulu répondre à mon interview. Alors Raphaël, tout de suite, je pense que pour nos auditeurs, en direct, hein, j'ai de la chance, Raphaël va nous jouer du violon. Tout de suite, et puis nous commencerons ensuite l'émission. Merci beaucoup, je vais faire le public. Ça marche très bien comme ça. Alors Raphaël, donc bienvenue dans l'émission Musique Traditionnelle. Je vois que là, vous jouez, pour nos auditeurs, si vous entendez une différence avec le violon de Raphaël et d'autres qu'on aurait pu entendre, c'est que vous avez une sourdine.
Oh, oui.
Voilà, donc...
Petite sourdine, mais...
Petite sourdine pour pouvoir jouer en appartement, c'est ça ?
Non, ça n'est pas ma sourdine d'appartement, ça c'est une sourdine pour juste casser un petit peu les fréquences un petit peu aiguës qui des fois peuvent être un petit peu quand on joue dans un petit endroit, ces fréquences peuvent vite monter à la tête et fatiguer quand on joue longtemps.
Ah,
donc,
d'accord.
Ça casse un peu les fréquences aiguës, mais il n'y a pas vraiment une grande différence au niveau du son.
On sent que c'est un peu plus ouvert.
Voilà.
Sans sourdine.
Voilà, avec et sans sourdine. Mais si vous voulez, je vous fais écouter ma sourdine d'appartement, c'est vraiment passionnant.
Alors il va chercher sa sourdine d'appartement qui permet du coup de jouer du violon tard dans la nuit. Sans gêner les voisins.
Voilà, ça donne ça.
C'est vraiment... Effectivement, on sent que c'est beaucoup moins fort. Alors justement, c'est intéressant ce que vous disiez sur cette sourdine qui vous permet de ne pas avoir les fréquences aiguës qui arrachent les oreilles au bout de plusieurs heures de violon parce que vous jouez beaucoup.
Oui, pas assez, mais je joue beaucoup, oui.
C'est-à-dire qu'au bout de 24 heures par jour, on passe au jour suivant. Alors ça veut dire quoi, voilà. Pas assez
Jamais assez, en fait. C'est-à-dire que... À mon sens, je devrais travailler encore plus, toujours plus, tant que les doigts le permettent et tant que l'emploi du temps le permet. C'est une des manières que j'ai de m'épanouir dans la vie. Donc, chaque heure passée sur le violon est une manière de donner des belles ondes, voilà, et de faire résonner ce monde de manière un petit peu plus positive.
C'est joliment dit. Alors, vous avez, si je ne me trompe pas, vous avez une formation plutôt classique en violon. Quand est-ce que vous avez commencé? Quand est-ce qu'a été votre rencontre avec cet instrument qui fait partie de votre bras maintenant? Enfin, des deux, en tout cas.
Voilà. Alors, lorsque j'étais tout petit, donc je n'avais pas encore 6 ans, ma mère m'a amené au conservatoire sous le prétexte que mes aînés avaient fait du sport. Donc pour occuper différemment mes mercredis après-midi, car le sport, à la limite, on pouvait en faire à l'école plus facilement que de la musique, ma mère s'est dit, tiens, pourquoi pas, le troisième, on va lui faire faire de la musique, parce qu'elle avait joué un petit peu de piano dans sa jeunesse. Et nous sommes allés au conservatoire, et là, les deux seuls instruments qu'on pouvait pratiquer tout de suite sans avoir à faire une année de solfège auparavant...
C'est vrai que ça, c'était très courant, hein.
Voilà, c'était le violon et le piano. Et donc, ma mère m'a demandé si je voulais faire du violon ou du piano, mais je ne savais pas du tout quels étaient ces instruments, je n'avais aucune idée, quoi. Vraiment, j'étais très passif. Et ma mère, ayant joué donc un peu de piano dans sa jeunesse, savait les inconvénients et les avantages du piano. Donc, les inconvénients qui sont à la fois les avantages du piano, c'est que c'est un instrument qui se suffit à lui-même. Donc il peut jouer tout seul, et souvent il joue tout seul.
Voilà, c'est ça.
il habille fort bien une pièce, mais du coup on ne peut pas le transporter. Voilà, donc elle m'a demandé si le violon me plairait, j'ai dit bah oui, pourquoi pas. j'y connais rien. Et donc j'ai commencé à jouer du violon, et donc au conservatoire, voilà, au conservatoire de la petite école de musique de ma ville.
Qui était ?
À Istres, en Provence.
D'accord.
À côté de la Camargue.
Ah oui, vous êtes de la Provence, ça y est, je me rappelle.
Voilà, j'ai grandi avec les moustiques.
Ouais, ça c'était le moustique selon Raphaël Maillet au violon.
et donc, les années passent un petit peu, et une de mes professeurs, qui s'appelle Marie-Claude Conrad, a cru déceler chez moi une sorte de facilité. Je ne vais pas parler de don.
Avait-elle raison ?
Pourquoi ? Oui, peut-être. mais le futur m'a beaucoup fait douter. Mm-hmm. Donc ensuite, je suis allé au conservatoire d'Avignon, sur la place du Palais des Papes.
Oui. Voilà. Donc, très belle place.
Très belle place. Et très beau conservatoire à l'époque où j'y étais. Et donc là, j'ai continué à faire mes études. De violon classique jusqu'à mon bac, en fait. Et quand il a s'agit de décider qu'est-ce que j'allais faire après mon bac, la musique est apparue comme ce que je connaissais, qui me faisait le plus rêver, quoi. Mm-hmm. J'aimais bien ça, j'aimais bien l'histoire et j'aimais bien le bois. Et en fait, le futur m'a montré aussi que grâce au violon traditionnel, justement, j'ai réussi à mettre tout ça ensemble.
Oui, et vous, à cette époque-là, vous ne connaissiez pas encore, du coup, la musique traditionnelle au violon ?
Non. Non, non. Là, après, ça nous emmène sur comment je suis passé de la musique classique à la musique traditionnelle, mm-hmm. Qui est une question qu'on me pose souvent. Et donc, je vais vous raconter une histoire. Attention, allez. Jingle histoire.
Est-ce que ce sera une histoire commentée par le violon ?
Ouais, si vous voulez.
Parce que vous faites ça très bien, je veux bien que vous fassiez une histoire commentée par le violon.
Alors, lorsque j'étais jeune...
Il était une fois.
Donc non, pas dans les années 50, dans les années 90.
Hein. D'accord.
Je sais que je fais plus vieux.
Mais c'est encore le siècle dernier.
Voilà. J'étais donc au conservatoire. Je n'écoutais que de la musique classique, mais je savais vaguement qu'il existait une musique populaire, je savais que c'était de la musique celtique. Donc on remet les choses dans leur contexte. Hein. Dans les années 90, il n'y a pas Internet. Donc si oui, on veut écouter une musique en particulier, c'est une demi-heure de vélo pour aller à la médiathèque de sa ville pour emprunter un des 5 disques rayés mm-hmm. qu'il possède dans le rayon musique celtique.
D'accord.
Ok, donc investissement. Mm-hmm. Beaucoup d'énergie pour peu de rentabilité, en fait. Et donc, je ne sais pas pourquoi j'écoutais cette musique, ça me faisait rêver. On ne savait pas pourquoi. Alors, réflexe, à l'époque, qu'est-ce que je fais ? J'ouvre mon portefeuille, je prends mes francs économisés par-ci, par-là, et je vais acheter un recueil de musique, de partitions de musique irlandaise. Forcément.
D'accord.
Donc, j'arrive chez moi, tout excité, j'ouvre la partition sur le pupitre, et je commence à jouer. Je joue, je joue, je tourne la page. Je joue, je joue, je tourne la page. Je joue, je joue, je...
Tourne la page.
Non, je jette la partition dans un coin et je fais oh là là, c'est ça la musique irlandaise.
C'est
et je
barbant.
Retourne, bah oui, et je retourne oui. à mon conservatoire.
Thank you.
Mais c'était compté sans le destin.
Ah.
Un de mes voisins jouait de l'accordéon diatonique. Ce voisin, c'était Duchâtel. Est-ce que vous avez entendu parler
de Duchâtel?
Oui.
Non.
Roland Duchâtel, de son prénom, était mon voisin. C'est lui qui a monté le groupe Petit Goût d'Horizon.
Ah, ça me dit quelque chose. Que l'on peut trouver, est-ce qu'on peut trouver encore sur Internet Petit Goût d'Horizon?
Oh, je pense, oui. Oui.
D'accord. Donc nous demanderons à Armand de mettre le lien sur le podcast pour que nos auditeurs puissent aller écouter.
Et donc Roland, sachant qu'il avait un voisin violoniste, m'invitait chez lui de temps en temps et nous jouions de cette musique traditionnelle avec des partitions. Donc moi je déchiffrais les partitions très vite et je savais jouer très vite, j'avais toute la technique. Donc en fait, c'est vrai que je trouvais ça un petit peu ennuyeux. Mais un été, il me propose de l'accompagner dans un festival de musique et de danse traditionnelle, Genetine.
Le fameux grand bal de l'Europe,
voilà.
À Genetine, dont nous avons parlé plusieurs fois dans les émissions.
Un grand bal qui se trouve dans un petit village paumé au milieu de la Pampa.
Petit village, oui, c'est effectivement. Il y a plus de vaches, je pense, que d'habitants. Oui.
Et on est obligé de dormir sous la tente.
Effectivement.
Voilà. Et donc là, je vois débarquer un gars. Avec un étui de violon en peau de crocodile.
Ouh là là.
Avec des souliers tout crottés, avec une casquette sur la tête, une salopette, suivi par deux chiens. C'était Polo Burguière. Il sort un violon dans un état pas possible, avec une couche de cellophane incroyable.
Alors la cellophane, chers auditeurs, c'est la résine que l'on met sur l'archet pour pouvoir frotter les cordes.
Voilà. Et qui donc, quand on ne nettoie pas son violon, produit une
blanchit
sorte...
la table du violon, voilà.
Exactement. Et donc là, il commence à jouer une musique que jamais je n'avais entendue. Une musique hypnotisante, répétitive. C'est de la musique old time.
Oh, yeah.
Ça vient des Appalaches, voilà, en Amérique. Et donc là, ni une ni deux, je me planque derrière lui pour apprendre le morceau. Et je file le rejouer sous ma tente avant de l'oublier. Et là, surprise, ça ne ressemble pas du tout à ce que j'ai entendu.
Alors, même si c'était les mêmes notes, c'est ça? C'était
exactement
les mêmes notes.
Alors là, je ne comprends pas.
Mm-hmm.
Je retourne, j'ai dû rater quelque chose. Je retourne apprendre un deuxième morceau. Je suis persuadé de jouer les mêmes notes, mais on ne dirait pas le même morceau. Alors là, ma fierté en a pris un coup.
J'imagine.
Tu joues pas des concertos si c'est pour qu'un bouseux en salopette te pose des problèmes avec une mélodie toute simple.
Exactement. C'est très intéressant ce que vous dites.
Sauf qu'après, j'ai appris que le polo en question, il gagnait tous les concours aux États-Unis de musical time. Donc c'est vraiment une grosse référence.
C'était une grosse pointure, malgré ses souliers tout crottés.
Et donc comme il n'y avait pas de partition, j'ai acheté son disque. Et pendant un an, j'ai joué par-dessus le disque. Pour revenir l'été suivant et montrer à Polo que j'avais tout compris.
Mmh, bien sûr.
Là, il m'a regardé en souriant, avec ses beaux yeux bleus, et il m'a offert son deuxième disque.
Au moins, vous aviez gagné ça.
Je dirais, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis sur la bonne voie? Bon. Mais pendant la deuxième année, j'ai rejoué par-dessus le deuxième disque, et l'été suivant, quand je suis revenu vers lui, donc ça faisait mon troisième Genetine. Là, il s'est passé quelque chose qui est très symbolique en musique traditionnelle, c'est que quand on joue dans un cercle, eh bien en fait le cercle va s'ouvrir pour laisser quelqu'un
entrer
et jouer. Donc symboliquement, c'est une sorte d'acceptation. Et donc trois ans après, j'ai pu jouer avec
pas derrière, mais dans le cercle.
Voilà,
alors nous allons écouter de la musique old time.
Thank you.
j'adore la musique old time, c'est vraiment, je trouve que ça a une sonorité et une joie. On se retrouverait un petit peu dans les pays du Far West avec le chapeau cowboy et puis un lasso, ça serait tout à fait... Alors là justement, c'est ce que vous disiez, c'est que c'était intéressant, c'est que vous aviez attrapé les notes, mais il y avait quelque chose qui manquait pour que ça ressemble. Alors comment pourriez-vous le définir, ce qui manque, parce que finalement ces mélodies traditionnelles, souvent elles sont pas très compliquées.
Tout à fait.
Voilà. Et je dirais
apparemment.
Alors je dirais que c'est même plutôt la difficulté de certaines musiques mélodies traditionnelles, c'est qu'il y a trois notes. Mm. Et comment on les fait sonner alors ?
Eh bien justement, le secret réside dans l'archer. C'est lui qui va être le vecteur de cette énergie qui va propulser le pied du danseur.
Donc ça veut dire effectivement qu'en fait, c'est l'archer et c'est la musique qui doit se mettre au service du danseur.
Tout à fait.
Et qui doit donner envie en fait de faire de danser même si on ne sait pas danser quoi.
Voilà. Et donc il faut avoir un sens du rythme qui est relié à une réelle sensation physique, une sensation qui est en rapport avec la pesanteur.
La pesanteur, en effet, voilà. C'est-à-dire le rapport du poids au plancher,
exactement.
Je dirais ça.
Donc si en musique classique, je joue une musique qui est inspirée des musiques populaires, je vais pouvoir modifier le tempo, je vais pouvoir faire attendre l'arrivée d'un premier temps, comme si, intellectuellement, j'arrivais à faire tenir un danseur en l'air jusqu'à ce qu'il retombe quand je le souhaite. Mais en musique traditionnelle, on ne peut pas faire ça. En musique traditionnelle, on doit respecter ce rapport à la pesanteur. Si on lance un rythme, le danseur va se mettre dedans et si notre temps n'arrive pas au bon moment, s'il arrive un peu trop tard, un peu trop tôt, on est déconnecté et il n'y a plus ce plaisir-là. Donc ça réside vraiment dans le rythme, dans l'archer, dans le souffle, dans le rapport qu'on a avec le corps et pas du tout dans les notes et dans la fréquence. Ça va être beaucoup plus efficace pour danser. N'importe quelle musique très véloce qui du coup va jouer sur d'autres aspects. Si je vous joue de la musique si je joue une musique tzigane, je vais justement jouer sur cet aspect improvisé, donc du coup devient plus une mélopée, une mélodie qui n'a plus de rapport avec la danse. On peut faire retenir les choses et les faire retomber. Donc, voilà, le secret, je pourrais presque même essayer de vous jouer comment est-ce que j'ai déchiffré ces partitions musicales irlandaises.
J'aimerais, si c'est possible.
Ça serait quelque chose comme...
Donc ça, c'est très juste en notes. Si vous le faites swinger à l'irlandaise, on va dire que ça donne... Merci beaucoup d'avoir fait cette comparaison. J'espère que vous avez entendu, chers auditeurs. N'hésitez pas à faire un retour par email ou par téléphone si vous avez des questions sur ces sensations entre ces deux façons de jouer. C'est vrai qu'en musique traditionnelle, je pense que danser est un atout et qu'il est presque nécessaire pour vraiment comprendre quel est le rythme de la musique. Et moi qui suis plutôt baignée dans les musiques auvergnates ou du Quercy, quand j'ai voulu essayer de jouer de la musique du Béarn, Eh ben, ça a été hyper compliqué, quoi. Je me rappelle un musicien que vous connaissez, hein, Mathieu Baudouin, qui joue extrêmement bien cette musique, et qui me disait, mais non, mais c'est une respiration. C'était ça. C'est-à-dire, j'avais les notes,
oui.
Mais ça ne sonnait pas. Et effectivement, je crois que tant qu'on ne l'a pas compris corporellement, dans sa peau, ses viscères, ses jambes, voilà... eh bien c'est compliqué. Donc vous diriez qu'en fait entre la musique classique, pour faire vraiment des grandes lignes, la musique classique on va dire est plutôt très intellectuelle, et puis et la musique traditionnelle plutôt corporelle. Est-ce que c'est rapidement dit ou est-ce que...
Oui, ce qui se passe c'est que dans... enfin, ça nous emmènerait peut-être dans la deuxième partie de l'émission.
Oui, alors là vous allez nous laisser en suspense.
Ouais,
alors,
parce que là
reste... juste quelques minutes pour en parler. D'accord. Peut-être que vous pouvez mettre...
Alors, peut-être que je parle juste un petit peu avant pour rebondir sur ce que vous disiez juste avant. D'abord, parlons de la musique traditionnelle. Je pense que, évidemment, le rapport au corps est essentiel, le rapport à la pesanteur, mais plus que ça encore. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a fait comprendre que ça prenait du temps d'arriver à jouer, à débloquer ce que j'avais appris au conservatoire, justement j'en ai beaucoup parlé, et notamment avec Paulo Burguière, qui est devenu un ami depuis, et qui lui en a vu passer beaucoup des violonistes qui prétendaient vouloir jouer cette musique apparemment simple.
Voilà, ça c'est bien dit.
Mais en fait, peu sont capables de donner suffisamment de temps, parce que c'est le temps, pour rentrer non pas dans une compréhension, non pas dans une lecture des notes, mais dans une sensation. La sensation, évidemment, elle est physique, relative à la pesanteur, mais il y a d'autres sensations physiques. Pour que n'importe quoi, on puisse l'aimer, il faut que ce soit relié à des souvenirs, à des parfums, à des paysages, à des rencontres. Et dès qu'on va aimer quoi que ce soit, on va aimer le répéter. Et en musique traditionnelle, ça c'est essentiel, c'est la répétition. On est dans une sensation qui nous est agréable. Donc on va aimer la répéter. C'est primordial. En musique classique, on va avoir peur de la répétition. Ça va apparaître comme une faiblesse. En musique traditionnelle, on va aimer ça. Parce que le morceau traditionnel est une sorte de photographie auditive. Il va être relié à notre souvenir qu'on en a, le lieu où on l'a appris, les gens qui nous l'ont appris, comme je disais, les paysages et les parfums. Et n'importe quel air... désormais que je joue est relié comme ça à ces souvenirs très importants et à un goût particulier. Et c'est pour ça que ma partition de musique irlandaise était si ennuyeuse, parce qu'elle n'était reliée à aucun souvenir, elle n'avait aucune valeur, parce que je ne lui en avais jamais donné. Et c'est en ça que la tradition orale, la transmission orale est essentielle, parce que ça va être relié à un humain, à quelque chose de précieux, à une richesse immatérielle. Et ça me rappelle un des plus grands conseils qui a été donné par un joueur d'accordéon italien. On en rigolait beaucoup avec mes amis d'Italie. Un jeune vient le voir et lui dit: quel serait le plus grand conseil que tu aurais à donner à un jeune accordéoniste pour jouer aussi bien que toi plus tard? Et le maître d'accordéon a ouvert son étui d'accordéon et a sorti un tire-bouchon en lui disant: il faut toujours que tu aies ça avec toi. Voilà la plus grande leçon. Donc, ça veut vraiment dire que si tu veux vraiment bien jouer de cette musique traditionnelle, il faut que ça soit relié
à l'humain,
aux rencontres et à cette véritable fonction sociale qu'est la musique traditionnelle.
Eh bien, je vous propose qu'on en reste là, parce que je pense que ce sont des paroles qui sont à la fois sages et très intéressantes. Je vous remercie beaucoup, Raphaël. Alors, on n'a pas fini, hein, parce que, chers auditeurs, je crois que vous avez remarqué que Raphaël est multi-instrumentiste et qu'il joue beaucoup de musique. Je vous propose qu'on se revoie la prochaine fois pour un deuxième épisode. Et peut-être plus.
Tralala.
C'était Musique Traditionnelle, une émission qui a donné la parole aux acteurs du monde de la musique traditionnelle. Une émission qui a été produite et animée par Mathilde Lacaze.